Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace en compagnie de Pierre Thomas, géologue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École normale supérieure à Lyon. Pierre Thomas, dans les années qui viennent, les Américains, en tout cas l'Agence spatiale américaine, va orienter l'essentiel de son programme en direction d'un retour à la Lune annoncé, en tout cas à horizon 2020. Or, quand on regarde un petit peu actuellement les demandes de la communauté scientifique, aussi bien en Europe qu'un petit peu partout dans le monde, la Lune est quand même considérée comme étant le grand absent. Qu'est-ce qu'un géologue qui s'intéresse au système solaire, à son histoire, aux différents satellites et planètes de notre environnement stellaire, peut bien aller faire sur la Lune? Et première question, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de demande des scientifiques pour retourner sur la Lune?
Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question. Imaginons que tu sois une fée, comme dans les contes. Tu sais, dans les contes, généralement, les fées permettent de dire faire trois souhaits, ils exaucent. Ouais. Si tu me proposais, moi, géologue, de m'envoyer, avec tout le confort et la sécurité qui s'y va, de passer un an sur une planète, laquelle je choisirais. Certainement pas la Lune, si j'avais un an à passer sur une seule planète, avec toute la technologie possible, j'irais sur Mars ou sur Vénus. Éventuellement, si j'avais plus de courage, j'irais peut-être plus loin sur Europe ou sur Titan. Alors, pourquoi aller sur la Lune? Parce que c'est de loin le plus facile. Si on veut envoyer des hommes sur Mars, ça coûtera horriblement cher, on les enverra une fois ou deux, ils vont rester pas trop loin, etc. La Lune, c'est à côté. Faut 3-4 jours pour y aller. On a une crise d'appendicite, on peut vous rapatrier en 3-4 jours. C'est facile. Et je dirais, avec une somme d'argent relativement modeste, ça t'en parlait, on peut transformer la Lune un peu comme l'Antarctique, avec un certain nombre de bases pour y faire quelque chose. Et c'est la seule planète où on peut installer des bases permanentes, ou comme en Antarctique. Deuxième réponse, on aurait demandé aux gens en 1950 pourquoi installer des bases en Antarctique. Les gens auraient dit, oh ben ça je sais pas, pourquoi installer des bases en Antarctique? Pour étudier les pingouins peut-être, enfin les manchots, etc. Ils ne pensaient certainement pas que c'était là qu'on pouvait étudier le soleil en permanence, que c'était là qu'il y avait des phénomènes magnétiques extraordinaires, qu'il y avait les archives climatiques terrestres du dernier million d'années. Donc de toute façon, aller sur la Lune, ça fera pas de mal. Mais c'est pas la première priorité pour un géologue. Mais c'est tellement plus facile que le reste. Avec une somme donnée, on pourra aller sur la Lune, on pourra pas faire la même chose sur Mars. Alors, c'est comme celui qui a perdu ses clés, la nuit. Il cherche sous le réverbère. Pas la peine qu'il cherche ailleurs, il ne le verrait pas.
Alors, je vais continuer à vous provoquer. Oui. Finalement, pourquoi pas aller d'abord explorer ce qui se passe dans dans l'endroit où sont stockés les 300 et quelques kilos ramenés par les astronautes d'Apollo. On sait aujourd'hui que 80 à 90% n'a pas été...
Non, c'est pas 90%. Et puis, quand on a un projet sérieux, on demande le caillou et on l'a.
D'accord.
Hein, ça, si au laboratoire, depuis que j'y suis, ça fait 20 ans, moi je ne travaille pas sur les cailloux lunaires, mais au moins deux reprises, des demandes d'échantillons ont été faites et elles sont en général données. Donc il ne faut pas croire qu'il y a un blackout et que la CIA cache tout parce qu'elle a trouvé des traces d'extraterrestres. Ce n'est pas vrai.
Alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, qu'est-ce qu'on va y faire?
Alors on va y faire. J'ai dit que ce n'était pas la première priorité, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant. Ce n'était pas le plus intéressant, mais comme c'est tellement plus facile. Alors, il y a deux choses à faire sur la Lune. Il y a étudier la Lune pour elle-même, et puis il y a étudier des problèmes qui ne sont pas que lunaires, mais qui sont du système solaire, mais qu'on ne peut pas étudier sur Terre. En allant sur la Lune, on pourra. Par exemple, il est possible qu'il y ait de la glace au pôle lunaire. Il y a des données qui indiquent qu'il y a un composé riche en hydrogène piégé dans le fond des cratères au pôle lunaire. Qu'est ce composé riche en hydrogène? A priori, c'est de la glace, mais c'est pas sûr. Il y a eu une expérience qui a été faite pour voir si c'en était. C'est la sonde SMART, je crois, qui a été précipitée en plein milieu de ce cratère. On dit, ah, s'il y a de la glace, peut-être on verra de la vapeur d'eau spectralement depuis la Terre. On n'en a pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On en aurait vu, on est très content. Mais il se peut qu'il y ait de la glace là-dessous. S'il y a de la glace, c'est l'enregistrement de 3 ou 4 milliards d'années de pluies cométaires et de bombardements de météorites. On aurait donc 3 à 4 milliards d'années d'enregistrement des conditions externes dans le système solaire.
Donc des archives.
Des archives extraordinaires, un peu l'équivalent à l'échelle du système solaire pour le climat externe, l'ambiance solaire, etc., qu'on a dans les calottes polaires terrestres avec le climat de la Terre pour le dernier million d'années. Donc il est évident qu'il faut aller voir s'il y a de l'eau dans ses carnets, et puis ensuite l'étudier, mais avec un luxe de détails extraordinaire. Quand on a trouvé cette eau pour la première fois, les journalistes, qui disent souvent n'importe quoi, je m'excuse Alain, on dit c'est bien, comme ça on pourra installer une base et on pourra arroser les plantes qui feront vivre les cosmonautes. Non, cette eau sera un trésor scientifique qu'il ne faudra pas gâcher, parce qu'elle n'a pas des masses énormes. Donc, il est évident qu'il faut aller voir s'il y a de l'eau et l'étudier s'il y en a. Dans le système solaire, il y a 30 ans, on pensait que le bombardement de météorites était décroissant au cours du temps. Très important au début, il y a 4,5 milliards d'années, puis progressivement, ça diminuait régulièrement pour devenir un bombardement très faible, comme il est actuellement. On a des indices que dans cette décroissance, il y a eu un pic, un regain vers 3,8-3,9 milliards d'années. On a trouvé les raisons de cet éventuel regain. Et si c'est des raisons, c'est des choses extraordinaires. C'est des changements de place des planètes dans le système solaire externe qui perturbent complètement la ceinture de Kuiper et qui feraient un bombardement terrible du système solaire interne. Il faut aller vérifier si c'est vrai. Et pour ça, il faut aller voir plein de très vieux cratères sur la face visible, sur la face cachée, les dater, etc., pour voir si c'est vrai. Ce n'est pas un intérêt pour la Lune, c'est un intérêt pour la connaissance générale du système solaire. Une autre chose qu'il faut voir, les cratères d'impact, c'est majeur dans le système solaire. Toutes les planètes en ont subi. Ce n'est pas facile d'étudier exactement ce qui se passe. On a plein d'idées. Mais sur la Terre, ils sont très abîmés. Bon, un de mes fantasmes, c'est qu'une grosse météorite tombe, mettons, demain au milieu du Sahara, pour ne pas faire trop de dégâts, et puis qu'on puisse aller voir étudier un gros bassin de 10, 15, 20 km. Pas plus gros, parce que ça ferait une grosse catastrophe. Mais sur la Lune, il y en a plein. Comme il n'y a pas d'activité, ils sont presque intacts. Donc on pourra faire plein de choses pour étudier le mécanisme d'impact.
Alors ça, c'est pour la seconde partie de votre intérêt pour la Lune. La première partie, on avait l'impression que c'était un peu bouclé, cette histoire est née la Lune. On pensait que les choses étaient un peu pliées, comme on dit.
Alors, comment est née la Lune ?
C'est peut-être pas sûr.
C'est pas si sûr que ça. Bon, tout le monde dit qu'elle est née d'un impact rasant entre la Terre et une planète de la taille de Mars. Une chose qui n'est pas très claire, c'est la Lune vient-elle plutôt des débris de la Terre ou plutôt des débris de l'impacteur ? Probablement un peu des deux, mais dans quelle proportion ? Pour ça, il faut faire de la géochimie fine en ramassant une très grande variété de terrains. Pour l'instant, on n'est allé qu'à 5 ou 6 endroits. En général, presque tous sur la face visible et presque tous au niveau de l'équateur. Donc l'échantillonnage, pour des raisons tout à fait techniques, mais l'échantillonnage est complètement biaisé. On a un échantillonnage, c'est comme si vous voulez étudier la planète et que vous restiez sur la face pacifique, par exemple, qui fait à peu près la moitié de la Terre, et ben vous verriez de l'eau et des atolls. Et vous direz, ben la Terre, c'est de l'eau et des atolls. La Terre, c'est pas que de l'eau et des atolls. Donc, il faut faire un échantillonnage beaucoup plus complet, aussi bien en surface et en profondeur. Alors, ce qui est bien sur la Lune, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des forages pour aller en profondeur, c'est qu'on a des cratères de météorites. Si vous avez un cratère de 10 km, il remonte des cailloux pris à 2 km de profondeur. Prenez un cratère Copernic qui fait 100 km, il remonte des cailloux de 20 km de profondeur. Et vous prenez le grand bassin Aitken qui fait 1000 et quelques kilomètres, il remonte des morceaux du manteau lunaire. Donc il faut aller choisir plein de cibles un peu partout pour avoir un échantillonnage représentatif, ce qu'on n'a pas. Il y a un problème qui n'est absolument pas résolu sur la Lune, c'est pourquoi les deux faces sont différentes. Sur la Lune, il y a 17% surface de mer et donc 83% de continent. Mais ces 17% de mer sont quasiment tous sur la face visible. Pourquoi ? Alors, il y a un embryon de réponse. C'est Clémentine, qui est une sonde américaine, qui a un joli petit nom, qui a montré que, très vraisemblablement, la croûte était beaucoup plus mince du côté face visible que du côté face cachée. Si la croûte est plus mince et si un processus X ou Y fait du volcanisme, c'est normal qu'ils sortent plus quand la croûte est mince que quand la croûte est épaisse. Mais on reporte le problème. Pourquoi la croûte n'a pas la même épaisseur partout et pourquoi elle est beaucoup plus mince d'un côté que de l'autre ? Et là, on n'a aucune idée. Il y a 36 modèles, mais il faut ramasser, aller voir, étudier, etc. Il y a encore des questions. Ce n'est pas peut-être les plus fondamentales du système solaire, mais c'est des bonnes questions.
La discussion actuelle sur la présence de l'eau à l'origine de la formation de la Lune, c'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui un centre d'échantillons lunaires ramenés par les gens d'Apollo, il n'y a plus d'eau, sauf que récemment, des analyses ont montré qu'il y avait peut-être des traces, on va dire, fossiles de cette présence, etc. Enfin, il y a toujours du débat, même sur que l'on ramène comme échantillon.
Je ne suis pas spécialisé. Échantillons, mais les minéraux lunaires sont anhydres. Prenons un morceau de basalte d'Auvergne, puisque je suis auvergnat. Dans ce basalte d'Auvergne, bien sec, on l'a mis au soleil, on l'a bien desséché, il y a quand même un peu 0,5% d'eau. Mais ce n'est pas de l'eau liquide, on peut le presser comme on veut, il ne sortira pas d'eau. C'est de l'eau qui est comprise dans des minéraux. Par exemple, si vous avez du silicium, du fer et du magnésium, avec un peu de calcium, d'aluminium et tout ça, si vous mettez ça ensemble pour faire un minéral avec de l'eau, vous allez faire un minéral amphibole. S'il n'y a pas d'eau, vous faites le minéral pyroxène. Alors, suivant le type de volcanisme sur Terre, par exemple dans les Andes où il y a beaucoup d'eau, parce que c'est la lithosphère océanique qui subducte, qui fond et tout ça, il y a beaucoup d'amphibole et pas beaucoup de pyroxène. À Hawaï, où c'est du manteau très profond qui remonte, il y a beaucoup de pyroxène et pas beaucoup d'amphibole. Mais il y a toujours les deux. Sur la Lune, il y a jamais de minéral hydroxylé. Alors, on en a, sur les 300-400 kilos, trouvé quelques picogrammes. Alors, cette eau, alors je n'ai pas de détails, mais ce n'est même pas forcément de l'eau, entre guillemets, lunaire. Dans un caillou ordinaire, lunaire comme terrestre, il y a 50% d'oxygène. Par exemple, le quartz, c'est la formule SiO2. La Lune est bombardée en permanence par le vent solaire qui est plein d'hydrogène. Donc, vous pouvez peut-être, puisque vous avez de l'oxygène plein les minéraux, et l'hydrogène qui vient du soleil, faire des choses comme ça. Mais même qu'il y en ait un micro-chouïa, le problème, c'est qu'il y en a infiniment moins que sur Terre, donc pourquoi? Et la raison que tout le monde invoque, c'est que quand la Lune s'est faite dans la température épouvantable, puisque c'est un morceau de Terre qui a été arraché, donc une multitude de petits débris de Terre, mais fondus, se sont retrouvés dans le vide spatial à 1000, 1500, 2000, 3000 degrés, dans le vide. Pensez bien qu'un caillou à 1000 degrés dans le vide, il perd toute son eau. Et ensuite, quand il s'est rassemblé, il n'avait plus d'eau. Donc, c'est une Terre déshydratée. Alors ensuite, il y a un gros débat. Sur la Terre, l'eau, par exemple, j'en ai dans mon verre ici, quelle est la partie qui est arrivée avec les météorites qu'ont fait la Terre et la partie qui est arrivée avec les comètes postérieures? Sur la Lune, il n'y avait plus d'eau dans les morceaux originels, puisque c'était de la Terre hyper chauffée. S'il tombe de l'eau postérieure par les comètes, vu la température et le vide, il fait 120-130 degrés dans le jour, et le vide, l'eau ne peut pas rester, sauf au niveau des cratères polaires. Donc c'est normal que la Lune n'ait pas ou quasiment pas d'eau.
Alors, il n'y avait qu'un seul géologue dans l'émission Apollo, Schmitt, hein, oui. Harrison Schmitt, Apollo 17, dernière mission. Aujourd'hui, par un heureux concours de circonstances, on vous offre un voyage sur la Lune. Qu'est-ce que vous choisissez comme destination, comme géologue?
Un site. Alors, j'irai vers la mer Orientale, parce qu'en allant dans la mer, j'ai le droit quand même avec une jeep à faire quelques kilomètres.
Évidemment, hein. Évidemment.
Mais que quelques, pas beaucoup.
La maison ne recule devant aucun sacrifice.
Non, mais tout dépend si j'ai un an à aller partout ou si j'ai une mission de quelques jours.
Choisissez.
Un an, je préfère aller un an aller partout. Mais choisis quelques jours, parce que là, il faut bien cibler. C'est comme le problème que se posent aux Américains quand ils posent un truc sur Mars, où est-ce qu'ils vont le mettre? Moi, j'irai vers la mer Orientale.
C'est où?
C'est juste à la limite mer-continent. C'est un cratère de 800 km de diamètre. Au fond, il y a du basalte. Donc je pourrais...
Comme en Auvergne.
Mais comme dans Apollo 11, Apollo 12, Apollo 15. Mais à un autre endroit. Donc je verrai, etc. Et surtout, c'est un cratère de 800 km de diamètre. Donc j'ai échantillonné à peu près jusqu'à 150 km de profondeur. Et j'irai voir dans les débris. Je ferai un échantillonnage complet des débris. Ensuite, il y a des problèmes, c'est un énorme cratère avec plein d'anneaux multiples. On se pose encore des questions sur les anneaux multiples, peut-être des rebonds comme des ronds dans l'eau, mais peut-être autre chose. Et là, je pourrais étudier de près trois anneaux concentriques qui me permettent pour répondre à des problèmes sur Mercure, sur Mars, etc. Je crois que j'irai vers le bassin oriental, et en m'éloignant un petit peu, j'aurai des continents ordinaires. Et en allant juste un peu au nord, j'aurai la mer des humeurs, qui sera une mer ordinaire aussi. Donc, je crois que j'irai sur Oriental.
Donc, on manque pas de site. Hein.
Non, non, on manque pas de sites.
Voilà. Il y a encore quelques années, je m'en souviens très bien, on discutait encore de volcanisme lunaire. C'est une vieille ancienne.
Une vieille lune.
C'est une vieille lune, mais c'était quand même seconde partie du 20e siècle.
Non,
c'est quelque chose qui a été complètement oublié. Pourquoi ça vous agace autant l'idée qu'il n'y ait plus une discussion sur le volcanisme lunaire? C'est pas aberrant.
Non, c'est pas aberrant. Je veux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe, mais la Lune, on la connaît bien. Toutes les grandes plaines de basalte, on les voit au télescope, on peut très facilement compter le nombre de cratères qu'il y a par kilomètre carré. Les Américains ne sont pas posés au hasard, ils sont posés parmi les endroits les plus vieux, mais aussi parmi les endroits les plus jeunes, c'est-à-dire où il y avait moins de cratères par kilomètre carré. Et ces endroits les plus jeunes, c'est 3,3 milliards d'années. Il y a des endroits un peu plus jeunes, ils ne sont pas allés parce que c'était mal placé pour des raisons de trajectoire. Si on extrapole la courbe, on va dire que c'est 3 milliards d'années. Le volcanisme n'a rien émis de grand, c'est-à-dire de coulée de lave de plus de quelques kilomètres de long, depuis 3 milliards d'années. J'ai du mal à imaginer que pendant 3 milliards d'années, il n'y ait pas un kilomètre carré de lave émis, et que pendant que Monsieur X ou Y, astronome amateur, hop, il a vu une lueur à ce moment-là. Et puis tu as dit tout à l'heure qu'il y a un débat. Il faut se méfier là encore. Quant à une communauté scientifique qui a une certaine unanimité, par exemple la Terre est ronde, depuis un certain temps c'est admis. Mais il y a encore à Londres une association qui s'appelle la Terre est plate, alors la même chose en anglais, et qui dit que non, la Terre n'est pas ronde, la Terre est plate. Et ils disent, il y a un débat, non, il n'y a pas de débat. On est allé sur la Lune. Il y a un certain nombre de gens qui disent que c'est pas vrai, que les Américains n'y sont pas allés. Ils disent, il y a un débat, vous devriez donner la parole à l'un, la parole à l'autre. Non, il n'y a pas de débat, on est allé sur la Lune.
Mais c'est vrai que le dernier à avoir soutenu cette idée, c'était Haroun Taziev.
Oui, à la fin de sa vie, Haroun Taziev, c'était pas un modèle. Hein, il y a des maladies qui frappent les vieux qui ne s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui se retirent. Et des gens qui ne se retirent pas. Haroun Taziev aurait dû se retirer plus tôt.
Ça me fait penser au climat, ce que vous dites là. Est-ce qu'il faut envoyer des géologues ou est-ce qu'on peut se contenter d'engins automatiques? Alors, on a en ce moment sur Mars une sonde Phoenix qui creuse le sol avec sa petite pelle vaillamment, on va dire ça comme ça. On a des engins en préparation pour aller faire de la photo ou en tout cas des analyses totalement automatiques. Est-ce que sur la Lune, des petits robots assez proches pourraient être une sorte de Pierre Thomas de fer?
Ça serait d'abord plus difficile. D'abord, les endroits intéressants sont avec des belles pentes, hein, des montagnes, des falaises et tout ça. Donc, il y aurait un problème technique. Les robots, ils aiment mieux les terrains plats. Et puis ensuite, maintenant, la Lune, on connaît quand même. Mars, on dégrossit. La Lune, c'est fait. On a dégrossi. Maintenant, on va affiner. Et j'ai la prétention de croire que l'œil du géologue est irremplaçable, l'expérience est irremplaçable. Alors évidemment, si c'était 10 000 fois plus cher d'envoyer un homme qu'un robot, on envoie un robot. C'est le cas sur Mars actuellement, on est incapable d'envoyer des hommes avant 20, 30 ans. Sur la Lune, c'est peut-être que 100 fois plus cher. Mais si les résultats scientifiques sont 1000 fois plus importants, le rapport qualité-prix est en faveur de l'homme parce qu'on a dégrossi.
Donc l'œil est important.
Là. L'œil et le cerveau. Imaginez, vous rentrez de votre travail à chez vous. Vous ne réfléchissez pas, vous vous arrêtez au feu rouge, vous prenez la deuxième à gauche, etc. Parce que vous avez l'habitude, vous êtes tous les jours. Si vous voulez programmer un robot qui fasse ça, ça sera terrible. Et puis le robot, il faudra lui dire que quand on voit quelque chose de noir, il faut l'éviter. Mais pas toujours quelque chose de noir, ça peut être une bonne sœur habillée en noir, mais ça peut être l'ombre d'un réverbère. Vous, sans réfléchir, vous distinguez la bonne sœur de l'ombre du réverbère. Le robot ou une tache noire. Donc, le cerveau humain, pour l'instant, surtout si on a 30 ans de métier de géologue derrière lui, fait un nombre de choses incroyables que, pour l'instant, ne fait pas un robot.
Est-ce qu'on va voir émerger une nouvelle communauté de géologues lunaires, puisque la priorité, encore une fois, de la première puissance spatiale mondiale, la NASA, c'est de ramener des hommes sur la Lune et donc d'avoir un vrai programme?
La NASA qui le veut, c'était Bush. La NASA, c'est normal, elle fait ce qu'on lui dit. Elle discute et puis après je ne sais pas quelle instance tranche et puis c'est normal hein, en démocratie. Je ne sais absolument pas si Bush parti, c'est des raisons politiques parce que les Chinois veulent aller sur la Lune, c'est la seule façon où on peut aller facilement. Donc peut-être qu'un nouveau président dira qu'au lieu de mettre ces milliards de dollars plutôt qu'aller sur la Lune, on va étudier, je ne sais pas, Europe, Vénus ou Mars. À mon avis, l'apport scientifique sera plus important. Sauf si on en met, alors là, un crédit illimité, il faut aller sur la Lune, c'est très bien. Mais j'ai peur que les crédits illimités ne soient pas pour tout de suite. Donc, je ne sais pas si le dollar dépensé sur la Lune, c'est le meilleur rapport qualité-prix.
Bon, pragmatique, Pierre Thomas.
Auvergnat.
Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.